VOA Afrique, les infos. À Washington, Henri Francisque.
Il est 9h à Abidjan, 10h à N'Djamena. Bienvenue à notre bulletin de nouvelles. Au Rwanda, la campagne pour un troisième mandat du président Paul Kagame continue malgré l'opposition de certains groupes comme le parti social Imbonerakure de maître Bernard Ntaganda. Le compte-rendu de notre envoyé spécial à Kigali, Bagasikura, qui a rencontré Wilson Ali Kayitare, l'un des initiateurs de la pétition en faveur d'une modification de la constitution rwandaise pour permettre un nouveau mandat du chef de l'État.
Ici, on parle de près de 4 millions de signatures recueillies en quelques semaines. Le but, signifier clairement aux parlementaires qu'il faut modifier la constitution afin de permettre au président Paul Kagame de briguer un troisième mandat. Ce dernier au pouvoir depuis plus de 20 ans achève en 2017 son second mandat à la tête du pays. Wilson Ali Kayitare est un cadre de banque à Kigali. Convaincu des succès économiques du président Paul Kagame, lui et quelques amis décident de lancer fin mars une pétition demandant aux citoyens d'écrire pour demander aux parlementaires de modifier la constitution pour permettre à Kagame de se présenter en 2017. Il affirme que son groupe a recueilli plus de 250 000 signatures en 3 semaines. Selon les partisans du pouvoir, à ce jour, le Parlement a reçu près de 4 millions de signatures. Et pour Wilson Kayitare, ce processus qui est enclenché au Rwanda n'a rien à voir avec les modifications constitutionnelles tant décriées dans les autres pays africains. À l'allure où vont les choses, tout laisse croire qu'on s'achemine sûrement vers un changement constitutionnel au Rwanda. Bagasikura, Kigali pour VOA Africa.
Dans une prochaine édition, vous entendrez maître Bernard Ntaganda du Parti social Imbonerakure qui est contre une modification de la constitution rwandaise. Au Burundi voisin, la tension reste forte alors que le président Pierre Nkurunziza maintient sa candidature à un nouveau mandat en dépit des protestations des adversaires de cette décision. L'ONU craint que les violences des Imbonerakure, la jeunesse armée du parti CNDD-FDD au pouvoir, ne fassent basculer le pays dans un nouveau cycle d'affrontements. Adama Dieng, conseiller spécial du secrétaire général de l'ONU pour la prévention des génocides, au micro de Nicolas Pinault.
Il est essentiel aujourd'hui que les autorités du Burundi garantissent le respect des droits fondamentaux et l'état de droit, en particulier durant cette période de forte tension, et ceci en respectant les obligations internationales du Burundi en matière de droits de l'homme.
Adama Dieng, conseiller spécial du secrétaire général de l'ONU.
La Voix de l'Amérique en direct de Washington.
Corne de l'Afrique, l'Érythrée dénonce le rapport de l'ONU l'accusant de violations systématiques et généralisées des droits humains. Des précisions avec Jean-Roger Bion.
Pour le gouvernement érythréen, ces accusations s'inscrivent dans le cadre d'une campagne politiquement motivée qui vise à saper les progrès politiques, économiques et sociaux de l'Érythrée, y compris dans le domaine des droits de l'homme. Le rapport de l'ONU épingle le gouvernement d'Asmara sur des questions comme la liberté d'expression, d'opinion, de réunion et de religion. Il note que des Érythréens accusés de crimes n'ont pas droit à des procès équitables et sont soumis à la détention arbitraire, à l'isolement et au travail forcé. Les Nations Unies s'inquiètent des entraves posées à ceux qui désirent quitter le pays et accuse nommément le président Isaias Afwerki, son parti, l'armée érythréenne et les ministères de l'Information, de la Justice et de la Défense.
En Tunisie, le gouvernement annonce son intention de faire appel d'une décision de justice annulant le décret de confiscation des biens de l'ex-dictateur Zine El Abidine Ben Ali. Le point avec Eddy Issango.
Le ministre tunisien des domaines de l'État, Aten Elouichi, a confirmé sur une radio locale la décision énoncée la veille par les tribunaux. Il a, au nom du gouvernement, qualifié la décision de dangereuse et choquante et a dit espérer que le tribunal prendra la décision adéquate au niveau de l'appel. 114 membres et proches de la famille de M. Ben Ali et de sa femme Leila Trabesli avaient vu leurs biens saisis dans les mois qui ont suivi la révolution de janvier 2011. Selon les tribunaux administratifs de Tunis, le décret confisquant ses biens n'est pas valable car il n'a jamais été validé ni par l'Assemblée nationale constituante élue en octobre 2011 ni par l'Assemblée des représentants du peuple élue fin 2014.
Pour terminer la lutte contre les groupes État islamique, le président Barack Obama devrait se prononcer peut-être dès cette semaine concernant le plan d'envoi de jusqu'à 500 formateurs militaires américains supplémentaires en Irak et ce dans le cadre des efforts du Pentagone pour renforcer les troupes irakiennes qui se battent contre les djihadistes. Plus d'infos sur notre site internet voafrique.com et aussi notre page Facebook.
Soyez au cœur de l'info sur VOA Afrique.